Franck Serret, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lancé une campagne de crowdfunding pour monter un documentaire, La fin des fous. Ce documentaire qui va être réalisé va raconter une histoire aussi terrible que méconnue. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1940 et 1945. À peu près entre 45 000 et 50 000 hommes et femmes sont littéralement morts de faim en France. Ces personnes étaient des personnes handicapées physiques ou mentales et elles étaient internées dans les hôpitaux psychiatriques en France. Elles ont été victimes de l'application du rationnement alimentaire instauré en 1940. Comment vous avez découvert cette histoire dramatique ?
En fait, moi, je travaille comme journaliste et je travaille beaucoup sur la politique du handicap en France. Et donc, je rencontrais régulièrement des personnes qui me parlaient de cette histoire dans des termes où elles évoquaient presque une extermination, en fait. Donc, forcément, c'était marquant. Et donc, ça m'a amené à vouloir en savoir plus. Et donc, j'ai commencé à lire des ouvrages sur ce sujet. Et à me dire qu'effectivement, il y avait une histoire là qui était incroyable, parce que ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu 300 000 victimes civiles pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble des personnes qui sont mortes en France, qui n'étaient pas des soldats, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en a eu 300 000. Et sur ces 300 000, 45 000 à 50 000 sont mortes dans les hôpitaux psychiatriques, et mortes de faim, littéralement, ou de froid, mort de faim, voilà, pour faire court, parce que c'était vraiment ça. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, il faut raconter cette histoire, parce que elle est très 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 peu connue, et parce qu'elle n'est pas anecdotique. Je veux dire, c'est tout sauf anecdotique, déjà par l'ampleur, 45 000 personnes qui sont mortes,
et par la responsabilité aussi,
par la responsabilité, on va en parler certainement, mais il y a ça. Et puis aussi, ce qui m'intéresse là-dedans, moi qui travaille beaucoup sur la politique du handicap en France, c'est de servir du passé pour éclairer le présent. En l'occurrence, ce qui s'est passé là montre qu'à partir du moment où on n'accorde pas d'attention à des gens qui peuvent avoir des besoins spécifiques, des besoins particuliers, ce sont ces personnes-là qui vont disparaître en cas de coup dur. C'est ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous explique rapidement les faits, puis on expliquera aussi le contexte, parce que c'est important. Mais les faits sont simples. En septembre 1940, le gouvernement français applique le rationnement alimentaire. Il faut gérer les biens qu'on a, donc il y a tant de calories qui sont attribuées par personne. Voilà. Mais les calories qui sont attribuées ne sont pas suffisantes pour vivre, tout simplement. C'est-à-dire que si vous contentiez de ces calories-là, vous mourriez. Personne ou presque personne n'est mort de faim en France, mis à part ces gens dans les hôpitaux psychiatriques, parce que tout le monde a complété sa ration alimentaire.
Par le marché noir ou par des propres cultures.
Voilà, enfin, il faut bien se voir qu'à l'époque, il y avait quand même une grande partie de la population qui habitait déjà à la campagne. Les gens qui habitaient en ville avaient de la famille à la campagne. Les gens qui avaient les moyens pouvaient aller au marché noir. Pour les indigents, il y avait des associations caritatives qui intervenaient. Donc en fait, c'était dur. Les gens se sont débrouillés et ont survécu à ce rationnement alimentaire. Mais ce rationnement alimentaire, on l'a appliqué de la même manière aux gens qui étaient internés. Et les gens qui étaient internés, eux, n'avaient aucune façon de compléter leur apport, puisqu'ils ne pouvaient pas sortir pour les chercher, parce qu'ils étaient souvent coupés de leur famille, et donc leur famille ne leur envoyait pas de colis. Et donc, ces personnes sont littéralement mortes de faim, parce qu'on a appliqué juste, bêtement, le rationnement alimentaire, qui ne pouvait pas convenir à ces personnes, parce que ces personnes étaient dans une situation particulière. En l'occurrence, elles étaient enfermées, et elles étaient coupées de tout lien social, ou presque de tout lien social, et donc appliquer le rationnement alimentaire les condamnait à mourir.
Combien de personnes internées en France, vous savez, en 1940
Non, je vais dire une bêtise comme ça, parce que je l'ai pas en tête. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'époque, grosso modo, il y avait 300 places en internement pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on est en dessous de 100. Vous voyez, moi, c'est ce rapport que j'avais retenu, c'est ce rapport que j'ai toujours en tête. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens étaient internés beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, et quand vous étiez interné, vous ne sortiez plus, quasiment. Aujourd'hui, l'internement est plus pour des cas lorsque les gens sont en danger, lorsqu'ils mettent en danger la vie des autres. On est plus dans un internement, on va dire, en cas de crise. À l'époque, l'internement était une manière de mettre les gens à l'écart et de les laisser là, et les conditions de vie étaient absolument... dramatique dans ces asiles, dans ces hôpitaux psychiatriques à l'époque. C'est-à-dire que c'était des très grands dortoirs, c'était du personnel qui n'était pas formé. Ils n'avaient pas de soins, en fait, quoi. Il n'y avait pas de soins, hein. Je veux dire, c'était des gardiens qui étaient là. Il y avait des médecins, quand même. Il y avait des médecins psychiatriques et tout, mais qui n'avaient pas du tout les moyens, même malgré leur bonne volonté, qui n'avaient pas les moyens de prodiguer des soins à l'ensemble des gens qu'il y avait. Il y avait des établissements où il y avait 3000 personnes. C'était énorme. Donc, en fait, il y a ce rationnement qui est appliqué. Et ce rationnement, il intervient dans un contexte particulier. Donc, un contexte d'internement massif. Beaucoup de gens sont internés à l'époque. Beaucoup plus qu'aujourd'hui. 3 fois plus qu'aujourd'hui. Ça, c'est l'ordre de grandeur. Deuxièmement, il faut bien voir qu'à l'époque, il y a un contexte eugéniste. Un des best-sellers de l'époque s'appelle... je sais plus le nom, peut-être. Bon, c'est le bouquin d'Alexis Carrel, son bouquin le plus connu. C'est un best-seller. Il est vendu à des dizaines de millions, de milliers d'exemplaires en France. Et ce livre expose clairement des théories eugénistes. C'est-à-dire que pour garder une race qui soit exempte de tare, il faut pouvoir sélectionner les gens. Voilà, je schématise, hein, mais c'est ça. On a des discours qui vont dans ce sens-là et qui sont extrêmement durs.
L'homme, cet inconnu, par le docteur Alexis Carrel, prix Nobel de médecine. Il est nécessaire de faire un choix parmi la foule des hommes civilisés. Nous savons que la sélection naturelle n'a pas joué son rôle depuis longtemps. Que beaucoup d'individus inférieurs ont été conservés grâce aux efforts de l'hygiène et de la médecine, que leur multiplication a été nuisible à la race. Il ne faut pas hésiter à ordonner la société moderne par rapport à l'individu sain.
On a des discours qui vont dans ce sens-là et qui sont extrêmement durs. Dans ce sens d'une sélection des gens, il ne faut pas laisser la population décliner dans ses qualités physiques, dans ses qualités mentales. Et donc, en fait, il y a ce contexte-là qui joue énormément. C'est-à-dire qu'en fait, la non-valeur sociale des internés, elle est entretenue par ces discours médicaux et ces discours politiques qui ne sont pas partagés par tout le monde, mais qui ne sont pas du tout minoritaires, qui ne sont pas inaudibles. Comme je vous l'ai dit, le bouquin d'Alexis Carrel... fait partie des grosses ventes, des hommes politiques prononcent des discours dans des assemblées sur ce sujet. Voilà, je veux dire, donc, ça entretient la non-valeur sociale de ces personnes qui sont internées.
Discours d'Édouard Herriot, ex-président du Conseil des ministres français en 1937, devant le Conseil général du Rhône, où il est élu. Monsieur le préfet du Rhône nous signale, une fois de plus, le douloureux accroissement du nombre des aliénés hospitalisés au Vinatier. Non seulement il y a là une indication très importante pour l'avenir de la race, mais cet accroissement accable les budgets publics. On nous dit, ce qui fait le surpeuplement de l'hôpital du Vinatier, ce n'est pas l'augmentation du nombre des entrées, mais la prolongation de vie des pensionnaires. Je fais observer qu'un malade qui reste 10 ans à l'asile aura coûté à la collectivité environ 80 000 francs, et je suis peut-être en droit de me demander s'il n'y a pas des réserves à faire sur des progrès qui, sans guérir l'aliéné, prolongent sa misérable existence pendant tant d'années.
Il y a également la méconnaissance, la honte qu'il y a avec ça et qui fait qu'effectivement, une fois que la personne est dans cet établissement, elle est coupée de sa famille, n'a plus grand lien. Alors, c'est pas le cas tout le temps, mais on va dire de manière générale, c'est ça. Une fois que la personne est là, elle est à l'écart de la famille, elle est à l'écart de la société, à l'écart de la ville, à l'écart du reste du monde, quoi. Donc en fait, ces gens, on a appliqué le rationnement. Et puis, on n'a pas pensé outre mesure à ce qui allait se passer, quoi, parce qu'on n'est pas forcément préoccupé par ça. Et puis, parce qu'on avait autre chose à penser à l'époque, effectivement, on est en occupation, on est sous occupation, il faut que les gens se nourrissent, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est une période qui est difficile. Hein, donc, voilà, je veux dire. Donc, tout ça fait que ces gens sont morts, tout simplement. Ils sont morts de faim, c'est-à-dire que les rares images qui sont faites présentent des gens dans un état de décharnement total. Je veux dire, ce sont des gens qui ne sont plus que des squelettes, quoi. Hein. C'est vraiment... le terme mort de faim n'est pas un terme que j'utilise comme ça de manière facile. C'est vraiment le cas. Alors, sur les dossiers médicaux, ce n'est pas noté tel quel mort de faim. Ce sont des termes, mais qui... des termes médicaux, on va dire, qui attestent cet état de fait, quoi.
Est-ce que des historiens ont travaillé sur cette question, enfin sur ce drame ?
Oui, alors en fait, quand on dit que c'est un drame oublié, il est oublié parce qu'aujourd'hui, personne, ou presque, dans le grand public n'en a conscience, c'est pas quelque chose qui était caché. Vous voyez, je veux dire, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, enfin même pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des médecins montent au créneau, des directeurs d'hôpitaux montent au créneau pour dénoncer ça, pour dire il faut donner à manger à nos fous parce qu'ils meurent de faim. Donc il y a des gens qui dès 1940, dès la fin 40, tirent la sonnette d'alarme. Ils la retirent en 41, 42 et enfin fin 42, Vichy va édicter une circulaire en décembre 42 donnant une ration supplémentaire. Voilà. Elle sera diversement appliquée, et puis le mal est fait, quoi. Voilà, je veux dire, les gens sont en état de faiblesse extrême, donc en fait, on aura des morts durant toute cette période 40-45. Donc, des gens tirent la sonnette d'alarme. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a des rapports sur la question et tout. Régulièrement, il y a des historiens qui ont travaillé sur la question. Mais voilà, c'est resté très marginal, comme si on n'avait pas du tout pris conscience de l'ampleur du phénomène. Enfin, des gens en ont pris conscience, mais ça n'a jamais atteint un degré de conscience collective.
Mais c'est pas enseigné, par exemple,
non,
à l'école.
Non, mais c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a aucune mention de ce fait dans les livres d'histoire. Encore une fois, on parle de 45 000 personnes sur 300 000 victimes civiles de la guerre en France. Ce n'est pas un fait anodin. Donc, il y a eu Max Lafont, un psychiatre qui a beaucoup travaillé dessus, qui a sorti un livre qui a contribué à faire pas mal de papiers à la fin des années 80. Et puis, il y a eu une autre personne qui s'appelle Armand Ragenberg, qui, lui, un historien amateur, on va dire, qui n'est pas professionnel d'historien, mais qui a aussi travaillé beaucoup sur cette question. Et puis, il y a également une historienne, professeure à Lyon, qui, elle, s'est emparée de cette question dans les années... début des années 2000, ou peut-être même fin des années 90, et qui a écrit un ouvrage qui fait référence sur le sujet aujourd'hui, qui s'appelle « L'hécatombe des fous ». Où, et c'est ça qui était intéressant, elle écarte la thèse de l'extermination. Mais de toute façon, tout le monde est d'accord là-dessus. Hein. En France, il n'y a pas de polémique. Alors, on s'attarde juste deux secondes là-dessus. En fait, il y a eu à un moment donné un doute, parce qu'en Allemagne, il y a une politique d'extermination. Ça s'appelait l'action T4. L'action T4, elle est ordonnée avant l'extermination des Juifs. Donc avant. Toutes les personnes handicapées qui sont internées dans des établissements pour personnes handicapées, donc là on n'est pas dans les hôpitaux psychiatriques, on est sur tous les établissements qui accueillent des personnes handicapées, alors sont évaluées par une commission médicale et qui dit grosso modo celui-là il peut survivre, celui-là on les gaze, donc ils étaient emmenés dans des chambres à gaz, puis ils étaient incinérés et leurs cendres étaient renvoyées aux familles avec un prétexte de mort. Enfin, un prétexte, une cause de mort qui était un prétexte, en fait, épidémie, de ci, de ça. Et en fait, il y a eu 275 000 personnes qui ont été exterminées, handicapées, qui ont été exterminées en Allemagne. En France, donc à un moment donné, c'est pour ça qu'en France, on a pu à un moment se dire, bah, il y a eu la même chose en France, voilà, c'est tout, c'est simple. Non, en fait, en France, il n'y a pas eu de politique d'extermination. Il n'y a jamais eu d'ordre. C'est-à-dire que là, en Allemagne, il y a les ordres qui sont donnés, enfin, voilà, il y a des archives, hein. En France, non. Y a
pas. Ce serait plus de la maltraitance.
C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui de la maltraitance, effectivement. C'est-à-dire, c'est de l'indifférence qui s'explique par les raisons que j'ai données auparavant, en l'occurrence. Ces gens étaient en état de mort sociale avant d'être en état de mort physique, quoi. Voilà. Donc, ils étaient à l'écart. Ils étaient dans des établissements où ils ne recevaient pas grand soin, ils survivaient plutôt qu'autre chose. Et puis, il a suffi de cet événement, c'est-à-dire l'application sans discernement du rationnement, pour que leur sort soit réglé, quoi. Mais, vous voyez, je veux dire, il n'y a pas une volonté. presque même, c'est, ça fait presque plus peur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans un cas, ok, bon, c'est clair, on veut plus ces gens-là. Dans l'autre, en fait, on s'en fout. On s'en fout. Donc, en fait, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans ce documentaire. C'est pour ça que je veux faire ce documentaire. C'est parce que si on ne fait pas attention des gens, et ça s'applique tout le temps, aujourd'hui comme hier, si on ne fait pas attention à des gens qui ont des besoins particuliers, c'est-à-dire que pour vivre, ils vont avoir besoin d'une attention un peu particulière sur certains points. Vous me direz, chacun va avoir besoin d'une attention particulière, mais là, on prend typiquement cet exemple. Ces gens-là, ils avaient besoin de rations alimentaires supplémentaires parce qu'ils ne pouvaient pas se débrouiller par eux-mêmes. On n'a pas pris ça en compte, ça aboutit à leur mort. Et cette situation-là, elle peut se retrouver dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle époque. Si on ne prête pas attention aux besoins particuliers des gens dans un contexte particulier, les plus fragiles, ils vont mourir, ils vont disparaître, ou ils vont énormément souffrir. Voilà, peu importe, on peut l'appliquer à plein d'autres choses. Je sais pas, enfin, on peut prendre des exemples. Bien entendu, ça n'aura pas la même... ce sera peut-être plus... moins marquant, mais... d'une certaine manière, la canicule de 2003, où 13 000 personnes âgées essentiellement sont mortes, c'est une surmortalité qui est due au fait qu'on n'a pas prêté attention à ces gens. C'est-à-dire que ces gens qui étaient souvent isolés, plus fragiles, parce que plus âgés, donc plus exposés au risque de chaleur et tout, on n'a pas prêté suffisamment attention à elles et elles sont mortes. 13 000 personnes sont mortes. On en a tiré les leçons, puisque aujourd'hui, il y a des plans canicules qui sont mis en place. Les mairies doivent avoir une liste des personnes âgées, fragiles, lorsqu'il y a un plan canicule qui se déclenche, tatadam, voilà. Ça peut être également, enfin, je veux dire, la situation des sans-domicile fixe. Je veux dire, on ne prête pas attention, suffisamment en tout cas, aux sans-domicile fixe. Comment est-ce qu'ils font pour vivre, pas seulement l'hiver, l'été? Et c'est pour ça qu'il y a des sans-domicile fixe qui meurent dans des proportions plus importantes, à des âges beaucoup plus bas que la population prise dans son ensemble en général, parce qu'on ne fait pas suffisamment attention aux besoins spécifiques de gens qui sont dans une situation de fragilité à un moment donné, et donc elles meurent. Donc en fait, vous voyez ce que je veux dire, ce qui s'est passé là a été énorme par le nombre de personnes concernées, par les circonstances, mais ce qui se passe là, il s'applique à tous les âges de la société. Et dans de nombreuses circonstances et à de nombreuses catégories de population.
Alors, Franck Seré, votre documentaire La faim des fous sur ces 45 000 personnes mortes de faim qui étaient internées dans des hôpitaux psychiatriques en France pendant la Seconde Guerre mondiale, sur quoi votre documentaire va-t-il se baser ? Sur des entretiens et des... je vous laisse expliquer.
c'est bien pour ça que j'ai du mal à le vendre à une chaîne de télévision, ce qui me scandalise parce que j'arrive pas non plus à comprendre... Voyez, que... un épisode comme ça, il n'y a jamais eu un documentaire là-dessus, et que ce soit si difficile de le vendre. Un des éléments de réponse, c'est qu'il n'y a pas d'image d'archive. Mais un des éléments de réponse, il tient aussi dans ce peu d'attention qu'on accordait aux gens. C'est-à-dire qu'effectivement, des images de la guerre 39-45, il y en a en veux-tu en voilà, je veux dire, sur tout, la vie civile, machin, la guerre, nanana, je veux dire, il y a eu des documentaires en pagaille qui ont été faits parce qu'il y avait des images. Personne n'a filmé dans les hôpitaux psychiatriques, qui étaient des lieux qui n'existaient pas aux yeux de la société de l'époque. C'était tellement des non-lieux qu'en fait, il n'y a quasiment pas de photos non plus. Donc en fait, effectivement, je n'ai pas d'image pour raconter ça. Par contre, les faits sont attestés. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des rapports qui ont été faits par des directeurs. Il y a des rapports qui ont été faits par des médecins. Il y a des rapports qui ont été faits par l'administration. On a des courbes de mortalité, on le sait. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas d'image que ça n'a pas existé. Ça, personne ne le conteste. Mais comme il n'y a pas d'image, c'est difficile à raconter, donc difficile à vendre une chaîne. C'est pas que vendre une chaîne soit quelque chose qui me... C'est pas mon but ultime. C'est juste que moi, mon but, en faisant ça...
C'est que ce soit vu aussi.
C'est que ce soit vu le plus largement possible. Et voilà, la télé reste un média dominant qui permet de toucher un grand nombre de personnes. Et ce qui m'intéresse, c'est le message qu'il y a là-dedans, à savoir ce que je vous expliquais, que si on ne prête pas attention aux gens les plus vulnérables, ils disparaissent. Donc en fait, je me suis longtemps heurté à ça. Et puis en fait, je me suis dit, mais en fait, 45 000 personnes, c'est énorme. Déjà... Il faut qu'on... Et en plus, 45 000 personnes, vous voyez, qui étaient en situation de handicap psychique ou mental. C'est-à-dire, tout de suite, ça fait un peu peur. Donc je me dis, il faut qu'on donne à voir qui étaient ces gens. leur destin, raconter leur destin. Donc en fait, je me suis tourné vers les descendants de victimes. Il n'y a pas d'association de descendants de victimes, on va y revenir tout à l'heure. Ça n'existe pas. Donc en fait, sur Internet, j'ai tapé des mots-clés, mort de faim, oncle, tante, grand-père, grand-mère, hein, mais puis j'ai réussi comme ça à contacter des gens qui avaient parlé de ça un petit peu sur Internet. Parce que même si j'avais eu accès, enfin j'avais pas accès aux fichiers des victimes à l'époque, hein, et même si j'avais eu accès, ça aurait été impossible pour moi de les contacter parce qu'elles ne savent pas forcément que leur grand-père, leur grand-mère, leur oncle, leur tante étaient dans un hôpital psychiatrique cette période-là. Donc c'est pour ça que j'ai procédé comme ça. Donc j'ai réussi à retrouver comme ça quelques descendants de victimes. Je les ai appelés vraiment précautionneusement parce que j'avais peur de leur réaction. En fait, j'ai été à chaque fois très très bien accueilli parce que c'est une souffrance pour ces gens, pour ces descendants. Et l'histoire, grosso modo, elle est la même, on va dire, dans toutes ces familles, avec des nuances, hein, mais je schématise. C'est à un moment donné, ces descendants, ils ont cherché à en savoir plus sur telle ou telle personne dont l'histoire n'existait plus dans la famille. Je me suis dit, mais la grand-mère, comment est-ce qu'elle est morte? Et puis voilà, donc ils se sont dit, bah, on leur a dit, ou ils ont trouvé dans des documents qu'elle avait été internée, de telle période à telle période. Certains ignoraient totalement cette histoire de la famine, et c'est comme ça qu'ils ont appris. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien voir que dans, en tout cas dans les familles que j'ai retrouvées, mais je veux dire quasiment toutes, ça a été comme ça, donc c'est, même si je suis un très faible échantillon, j'ai quand même tendance à penser que c'est assez révélateur de quelque chose. Dans ces familles, l'histoire de cet oncle, de ce tante, de ce grand-père, de ce grand-mère, elle s'est effacée. Volontairement, dans certains cas, c'est dans certains cas, effectivement, on a mis un voile dessus. Par indifférence, encore une fois, dans d'autres cas. Et elles ont dû chercher, et ce silence, en fait, familial, il veut dire quelque chose. Parce qu'en fait, pour moi, je pense que c'est l'explication, la raison, la réponse majeure à la question que vous me posiez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? C'est parce qu'en fait, cette histoire, elle n'existe déjà quasiment plus à l'échelle des familles. Pour ces raisons, je veux dire, soit parce que les gens se sont irresponsables d'avoir fait interner la personne et que cette personne se meurt de faim, donc ils n'en ont jamais parlé par la suite à leurs enfants, parce que, ouais, je veux dire, ils portaient le poids de la responsabilité, soit parce qu'ils portaient aussi le poids de la responsabilité parce qu'ils ont d'abord cherché, eux, à survivre. Encore une fois, on est dans une période très difficile, je veux dire, il y a des gens qui étaient déplacés, enfin, je veux dire, c'est tout sauf simple, hein. Donc il y a un, il y a la responsabilité qui joue un rôle, je pense. Et puis deux, il y a aussi une certaine, un certain manque de considération finalement vis-à-vis de cette personne qui était quelqu'un de fou, quoi. Voilà, donc a été interné, on ne s'est jamais trop intéressé à son histoire. Voilà. Et donc en fait, le silence dans ces familles, il nourrit l'amnésie collective sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Parce qu'en fait, au sein des familles, même, c'est un sujet soit qui est oublié, ou soit qui est tabou. Parce que ça a été le cas dans certaines familles que j'ai interrogées, voilà, elles utilisaient ce terme, c'est un sujet tabou. C'est-à-dire que même cette personne qui a cherché, qui a les preuves, lorsqu'elle en parle au nom de la famille, n'arrive pas à accepter cette réalité que leur grand-mère est morte de faim dans un hôpital psychiatrique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je vais me baser sur ces familles. Pour deux raisons, parce qu'elles vont me donner à voir qui étaient ces gens, et parce que leur histoire personnelle vis-à-vis de ce drame explique en partie l'histoire nationale vis-à-vis de ce drame. Donc je vais me baser là-dessus, ce sera ma première trame narrative, et la deuxième, ce sera la parole des experts qui vont resituer ces histoires individuelles dans une histoire collective et qui vont nous expliquer le rationnement, qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait, cette histoire du fait qu'il n'y avait pas assez de calories dans les rations, qui vont nous expliquer ce contexte eugénique, le contexte eugéniste de l'époque, qui vont nous expliquer les conditions d'internement à l'époque et la politique d'internement, qui vont nous expliquer cette mort sociale, cet éloignement, cet exil qui était imposé en fait à ces internés et qui se retrouvent à couper tout lien avec la société. Et c'est tout ça au final qui va nous amener à comprendre cette histoire. Donc je vais l'apprendre par des histoires individuelles et je vais l'apprendre par l'apport d'experts qui vont des historiens qui vont nous expliquer la société de l'époque et les mécanismes qui sont mis en route pour que 45 000 personnes meurent dans pas l'indifférence totale, parce que des gens s'en sont émus, des gens ont travaillé pour que ça n'arrive pas, mais en tout cas dans une indifférence quasi totale, quoi.
Vous allez aussi filmer certains lieux, c'est ça, en France ?
Alors, des lieux, c'est pas tant des lieux, ce que je vais aller filmer, c'est où ces gens sont aujourd'hui. Parce que ça aussi, c'est révélateur. C'est-à-dire que beaucoup de ces personnes, lorsqu'elles sont décédées, elles ont été entourées dans la fosse commune de l'établissement, tout simplement. C'est-à-dire que les familles n'ont pas récupéré le corps. Encore une fois, je ne jette pas la pierre aux familles. Elles pouvaient très bien être très loin, on était en pleine guerre, donc les transports étaient difficiles, tout ça, on n'est pas du tout dans notre situation aujourd'hui. Des corps sont laissés dans les fosses communes, et ces fosses communes, dans certains endroits, une plaque commémorative demeure, et dit, voilà, c'est la fosse commune de l'établissement, voire même dit, X personnes sont mortes ici de faim, de telle année à telle année, et puis dans d'autres endroits, ça a carrément disparu. C'est-à-dire que même la tombe où ces gens étaient enterrés ensemble, une fosse commune quoi, même ça, la trace a disparu. Donc en fait, ça, on va aller avec les descendants à l'endroit où demeurent les restes de leur aïeul pour qu'ils nous expliquent aussi ça, parce que ça aussi, c'est une partie de l'histoire, ça. Je veux dire, ce n'est pas anecdotique que... dans un établissement, 1000 personnes, 2000 personnes sont mortes de faim durant une période très courte et que nulle part ce n'est évoqué. Dans l'établissement même, où que la fosse commune a disparu, il faut y dire. Enfin, qu'il n'y ait même pas une petite trace, un petit panneau racontant. Voilà, je veux dire. Donc en fait, ça, on va aller sur place et puis après. On va aller dans des archives, on va s'intéresser notamment à l'hôpital de Clermont-de-l'Oise, qui est l'hôpital où le plus de gens sont morts. Ils étaient plus de 3000. Plus de 3000 sont morts dans cet établissement, qui était un très grand établissement. Et donc là, on va beaucoup s'y intéresser parce qu'en fait, il y a plusieurs des familles que j'ai contactées, dont l'aïeul est décédé à Clermont-de-l'Oise, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque c'était l'endroit où il y a le plus qu'ils ont décédé. Donc en fait, là, on va aller plus particulièrement à Clermont-de-l'Oise pour voir ce qui... Ouais, les traces qui restent de l'époque, les anciens bâtiments. En 1946, le directeur de l'établissement avait écrit un rapport très, très détaillé sur ce qui s'était passé. Donc ça, tout ça, on va aller filmer ça, voilà.
Merci beaucoup, Franck Seret. Peut-être un dernier mot pour finir. Quand est-ce que votre documentaire, a priori, sera fini et prêt, alors, et visionnable?
L'idée, c'est de tourner la majeure partie des scènes en février, enfin des séquences en février, de pouvoir le boucler pour, enfin, qu'il soit monté tout ça pour fin juin, quoi. C'est-à-dire, on travaille dessus au premier semestre 2017, quoi.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous de m'avoir invité.
لا مش انا اللي ابكي ولا انا اللي اشكي لو جرى علي هواك ومش انا اللي اجري واقول عشان خاطري ولا لي حق معاك تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني فاكرني حترجاك انا قلتها كلمه كل شيء اسم ودي اسمتي وياك وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الأمل سنة